Bien, alors vous savez pourquoi nous sommes là, c'est
Ah bon?
le. Ceux qui ne savent pas. Bon, donc c'est la quatrième séance de cet atelier sur la sculpture en France au 19e siècle. Vous savez pourquoi vous êtes là, mais vous connaissez aussi par cœur nos petites règles sur lesquelles je ne vais pas revenir. Et cette séance va s'organiser de la même manière que les précédentes, c'est-à-dire que on va commencer par entrer dans le sujet en regardant une sculpture qui va nous faire déjà un peu aborder la période qui nous intéresse aujourd'hui, qui est, vous savez, la troisième, hein. Vous vous rappelez que les deux périodes précédentes, les deux séances précédentes, nous ont permis d'évoquer deux autres périodes de ce 19e siècle sculptural que nous étudions. Là, c'est donc la troisième phase qui va nous permettre de voir en fait la fin du 19e, mais aussi le début du 20e siècle. Hein, parce que je vous rappelle hein, qu'on parle du 19e siècle, mais du grand 19e siècle, pas celui qui s'arrête en 1900. Hein, celui qui va un petit peu au-delà parce que, ben voilà. Les siècles, quelquefois, débordent un peu, en tout cas, je dirais intellectuellement, de leurs limites de date. Donc, on va d'abord regarder une œuvre qui va nous faire permettre d'entrer dans le sujet. Ensuite, on va, comme d'habitude, regarder un pêle-mêle de photographies classées dans l'ordre, enfin, d'œuvres classées dans l'ordre chronologique, ce qui va nous permettre de nous familiariser avec les sujets, les styles, les noms des sculpteurs en question. Et puis il y aura la question du jour pour terminer. Ok? On va? Hein, je pense que le plan, il est béton et que tout le monde l'a. Bien. Je ne sais pas ce que vont donner les couleurs, parce que déjà sur ces diapos-là, les couleurs que j'ai voilà ne passent pas à l'écran. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Enfin, on va essayer en tout cas. Je vous passe donc la sculpture qui va nous permettre de rentrer dans le thème du jour et que voilà. Alors. Qu'est-ce que vous auriez à me dire sur cette culture? On commence peut-être par les questions bêtes et méchantes je dirais, de matériaux, etc. Qu'est-ce que. Enfin, c'est une sculpture en bronze, ouais.
Très grande.
C'est grand, effectivement, c'est une grande pièce hein, qui est. On va dire grandeur nature, si tant est qu'on est.
Voilà.
C'est un centaure, effectivement, on a un centaure.
Bien. Fatigué.
Un centaure fatigué. Qui a la tête, qui est sur son épaule. Ouais.
Par contre, il a quelque chose autour du ventre.
Il a quelque chose autour du ventre.
Du bras.
Du bras.
Parce qu'on voit qu'il repose.
Comme attaché. À quel endroit il sera attaché?
Je sais pas.
Au bras, justement.
Il s'appuie sur quelque
chose.
Il s'appuie,
on dirait. C'est de ça dont vous parlez. Hein. Ouais. C'est quoi cette chose-là?
C'est ce qu'on demande.
Enfin, c'est ce que je vous demande.
Non, mais nous, on a demandé en premier. Hein.
Bon.
C'est un collier de centaure.
Je vous le dirai, mais après. Pardon?
C'est un collier de centaure.
Un collier de centaure.
Un harnais?
Un harnais de centaure. C'est que ça ressemble un peu à ce qu'on met autour du col des bœufs, vous savez, ou des chevaux de trait. Ouais. Hein. Ça pourrait faire penser à ça, mais c'est pas ça.
C'est pas ça.
D'ailleurs, vous avez souvent demandé à des centaures de traîner quelque chose.
On n'en a pas tellement.
Vous n'en avez pas tellement. Ah, bah écoutez, il faudra qu'on fasse une formation là-dessus.
Un
carquois.
Un genre
de carquois. Ouais, ça pourrait être une idée.
Pour lancer des flèches.
Pour lancer des flèches.
Ça ne m'inspire pas.
Non, ça ne m'inspire pas. Ben, je comprends parce que ce n'est pas ça non plus.
Quelque chose qui le ligote, non qui
Alors, c'est ce que vous pensiez aussi d'ailleurs.
Hein, de
bouger. Ah non.
Non.
C'est vrai qu'il a, il a un côté un peu contraint. Hein, ce... En tout cas, c'est la façon dont on le voit. Hein. On voit quelque chose d'un peu contraint dans ce centaure-là.
Ça doit être complètement idiot, mais moi je vois une lyre.
Ah, c'est pas idiot. C'est pas vraiment idiot que c'est ça. Donc c'est pas du tout idiot. Ce que vous avez là, c'est évidemment une lyre.
Wow.
C'est-à-dire qu'il a sur son dos, vous savez, c'est pratique un centaure parce que ça a donc le haut du corps d'un humain et le reste d'un cheval. Donc voilà, on peut faire des tas de choses. Par exemple, on peut poser sa lyre sur la croupe et puis. Jouer quoi avec quoi. Effectivement, donc c'est ce que fait ce centaure là. Hein. Donc effectivement, il s'appuie sur sa lyre qu'il a placée sur sa croupe. Pratique. Ça y est, vous avez.
Mais où est la tête? Il n'y a pas de tête.
Si, si, elle est sur le côté. Elle est penchée à droite.
Elle est petite.
Elle est petite. C'est vrai. C'est vrai.
Il est blessé.
Ah.
Oui, il a une attitude.
On a l'impression qu'il est blessé. Hein. Donc on a un centaure qui effectivement qui est un peu disproportionné. Enfin, si tant est, on a vu beaucoup de centaures. Hein. Enfin, il a l'air d'être disproportionné. Il tient sur sa croupe, effectivement, et puis il s'appuie sur une lyre. Il a la tête sur le côté, il a l'air blessé. Bien. Ça vous inspire quoi?
Il faut connaître les
centaures
déjà.
Vous connaissez les centaures. Je sais pas, quand vous pensez centaure, vous pensez à quoi?
Chiron.
Oui. Chiron, c'est qui? Chiron ou Chiron, on peut dire les deux, oui. Chiron, c'est qui? Vous oubliez tout le temps. Oh. Pas révisé avant de venir.
C'est pas celui qui a édiqué Dionysos?
Il a édiqué Dionysos. Donc, centaure serait un éducateur, si j'ose dire.
Un protecteur. Non, je ne sais pas, il me semble qu'il a un protecteur.
Mais tous ces gens-là, parce que moi, vous savez, il faut tout m'expliquer.
Oh, c'est la mythologie grecque.
Ah, mythologie. Voilà, on est évidemment dans la mythologie grecque. Donc, quand on pense centaure, on pense mythologie grecque. Hein. Quand on pense centaure, on pense pas, je sais pas, aux paysans du Berry au 19e. Voilà, hein, donc on pense plutôt à mythologie grecque. Okay. Donc quand on voit une sculpture comme ça, on pense à la mythologie grecque et pourquoi pas au centaure Chiron ou Chiron qui était un centaure, on va dire, éducateur. Hein. Qu'est-ce qui montre dire, cette dimension d'éducateur?
La lyre.
Vous savez que la musique, hein, vous savez que dans l'Antiquité grecque, la lyre est ce qui accompagne beaucoup de choses. Hein. La littérature... elle est généralement accompagnée de musique, hein, la poésie par exemple. Hein. Donc la musique, c'est un peu la seconde nature de l'intellect, si j'ose dire. Hein. Donc un centaure qui a une lyre, c'est pas si fréquent que ça, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on est là, effectivement, devant un centaure qui évoque ce centaure Chiron qui a pu évoquer d'une série de gens, en particulier celui qui est là, qui l'a éduqué, c'est Achille. C'est le héros Achille, hein, Achille et Chiron. Si vous allez dans la galerie François Ier à Fontainebleau, hein, vous avez une peinture de Rosso Fiorentino qui représente justement l'éducation d'Achille par le chanteur Chiron. Bien. Donc effectivement, quand on voit ces sculptures-là, on pense à tout ça. Hein. On pense à la mythologie gréco-romaine, on pense à ce centaure Chiron, parce qu'on voit bien qu'on a un centaure éduqué, il a une lyre. Hein, c'est pas encore une fois un paysan qui a une lyre. Hein. Un centaure qui a une lyre, c'est un centaure éduqué. Et un centaure qui éduque, puisqu'il est éduqué. Hein. Donc voilà. Mais effectivement, il n'est pas très en forme. Alors, quelle est, à votre avis, l'idée qu'il y a derrière? Quand le sculpteur, vous allez me révéler le nom, a fait ceci, c'est pourquoi? L'idée, c'est quoi?
Il a appris la mort d'Achille.
Il a appris la mort d'Achille?
Peut-être.
Elle a rendu
un peu triste.
Il est triste de la mort d'Achille. Et alors, plus généralement, c'est peut-être effectivement la représentation d'un fait, c'est-à-dire un fait écrit, consigné dans la mythologie gréco-romaine, mais est-ce que ça peut parler au-delà et évoquer autre chose? Vous savez, quand un artiste fait quelque chose, c'est peut-être pas simplement pour montrer un événement, peut-être pour aller de manière plus universelle, évoquer quelque chose. Quoi?
La guerre.
Oui. La fin du siècle, c'est celle de 1860.
Pardon?
Si on est à la fin du siècle, c'est celle de 1870.
Oui. Et c'est une sculpture très guerrière ici?
Non.
Peut-être pas trop. Hein.
Ouais,
mais c'est vrai que la fin du 19e, c'est du lourd. Hein.
C'est une façon d'exprimer la mort.
Oui. Oui, alors voilà. C'est sans doute effectivement une manière très large d'exprimer l'idée de la mort, oui. Et de la mort, boum, c'est tout. Parce qu'encore une fois, ce centaure, ce n'est pas simplement un centaure qui meurt.
C'est la mort de la culture.
Voilà, c'est ça. Hein, c'est un centaure cultivé. Et un centaure qui cultive, si j'ose dire. Puisque, vous l'avez bien dit, hein, quand on regarde ce centaure avec ses lyres, on ne pense pas à un centaure lambda, mais au centaure Chiron, qui est celui qui a éduqué Achille. Hein. Donc en effet, ce qui est évoqué là, ce n'est pas simplement la mort, c'est quelque part l'espèce de mélancolie qu'on peut avoir face à l'idée de la mort de la culture, quelque part. Hein, la mort et la mort de la culture. Hein. Et vous avez raison de souligner que dans cette ambiance qui est plus ou moins celle de la fin du 19e, c'est un moment où on peut avoir cette espèce de nostalgie-là. Hein. Tout ne va pas merveilleusement bien en Europe à la fin du 19e siècle. Hein. Tout avait l'air d'aller pas mal, d'ailleurs. Hein. Enfin, il y a eu, vous l'avez dit, la guerre 70. Bon, après, les choses seront établies. Enfin, ça va reposer pour après, vous le savez. Hein. Donc, effectivement, on est dans une phase un peu compliquée. Il y a eu cette espèce de mélancolie hein, face aux événements, finalement, hein, fait qu'on peut produire des œuvres comme ça. Si vous aviez, par exemple, à imaginer des... Prenons, par exemple, un nom de musicien. Vous citeriez quel musicien par rapport à ça? Les musiciens de cette même période.
Wagner.
Pardon?
Wagner.
Wagner, peut-être, oui. Oui.
Berlioz,
alors Berlioz c'est un petit peu plus ancien, c'est vraiment romantique. Hein. Berlioz, on l'a vu, avant on a vu une caricature par Danton, là, c'est dans tous les sens, hein.
Un français?
Oh oui, enfin, ça peut être un allemand.
Ah,
ouais, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a effectivement Wagner peut être. Pour moi, Wagner, c'est quelque chose de plus monumental. Hein. On aurait une femme qui rit avec un casque. Hein. Là, on a un centaure qui meurt. Moi, ça me fait plutôt penser à quelqu'un comme Debussy, vous voyez.
Ah oui.
Hein, vous voyez, quelque chose de plus... On nous met au Ravel. Hein. Et c'est ce qu'on appelle la musique française. Enfin, c'est le français, c'est autre chose. Hein. Vous voyez, cette musique assez... voilà, plus Wagner, si vous voyez, à côté, voilà, hein, sur une scène. Hein. Là, on est dans quelque chose de plus...
Tranquille.
Voilà. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, quelque chose de plus impalpable, de plus doux, de plus... Voilà.
C'est l'après-midi d'un centaure.
Voilà, exactement. L'après-midi d'un centaure. Exactement. Voilà. C'est le centaure et le sortilège.
Hein. Voilà.
Donc voilà, on est dans cette idée de... dans cette idée, vous voyez, de... On est dans un centaure, il est en train de mourir, donc évidemment, c'est l'idée de la mort, il y a la culture qui meurt, c'est... Voilà. Et ça n'est pas asséné par une énorme valkyrie qui plante son pieu dans le torse de je ne sais quel héros, c'est un centaure qui meurt doucement, vous voyez ce que je veux dire, hein, avec une espèce de mélancolie diffuse qu'il y a derrière. Hein. Qui est-ce qui a fait ça?
Bourdelle.
Absolument. C'est Bourdelle. Bravo. C'est Antoine Bourdelle. Hein. Voilà, d'une heure qui s'appelle Centaure mourant. Voilà. Ah bon, ben ça va. Voilà. Voilà, c'est donc Bourdelle, hein, une œuvre très... Oui, 1914 en plus, hein, on peut pas, ça ne s'invente pas. Hein. Vous aviez raison de parler de cette fin du 19e, début 20e, qui est quand même lourde. Hein. Donc je trouve que cette œuvre, quelque part, elle parle bien de cette époque fin de siècle. Bien. Alors, maintenant qu'on est rentré dans cette phase par ce centaure de Bourdelle, on va aller un peu dans le détail, on va regarder des choses d'un petit peu plus près. Donc, vous connaissez la règle du jeu. Je vous montre des œuvres. Ces œuvres, on va donc les regarder, en parler, voir un peu ce qu'elles génèrent, ce qu'elles représentent, en quel matériel elles sont faites, que sais-je encore. On va essayer de trouver le sculpteur. Et comme ça, se faire un profil de l'évolution de la sculpture en France, en cette fin 19e, début 20e. Okay, je vous rappelle que les œuvres que je vous montre sont placées de manière chronologique. On commence par ça.
On commence à quelle date?
Alors, on commence dans les années 1875-80. Hein, puisque vous vous rappelez, hein, qu'est-ce qu'on a vu la première séance? Enfin, la première séance, c'était un mistophoto, je vous ai montré tout. Hein, mais la deuxième s'attachait à quelle phase?
Classique,
néoclassicisme et romantisme. La troisième séance, c'était éclectisme et puis réalisme. Hein, voilà. Donc là, on est à la fin de cette perspective-là. Hein.
Symbolisme et,
voilà.
Et puis exotisme.
Ce qu'on appelle le primitivisme. Hein, voilà. On est donc dans ce qu'on appelle, encore une fois, les mots valent ce qu'ils valent, hein, le symbolisme et le primitivisme. Hein, on est donc dans cette fin 19e, début 20e. Alors.
Du plâtre?
Oui, c'est une sculpture en plâtre.
Un homme agenouillé qui se fait souffrir.
Elles ont agenouillé ou accroupi, je dirais peut-être plutôt, oui. Ouais. Qui semble effectivement souffrir, oui.
Lui aussi.
Pardon ?
Lui aussi.
Lui aussi, oui. Il n'y a pas que le centaure. Oui.
Musclé, quand même.
Musclé, parce qu'il est tout habillé, cet homme, bien entendu.
Ah non, il est
habillé. Ah, bon, d'accord, pardon, je ne peux pas. Vous allez pas trop dire, encore une fois. Donc, c'est un homme nu accroupi. D'accord ? On en voit tous les deux, toutes les deux ondes, bien entendu.
Oui. Hein,
les hommes nus accroupis, vous allez dans la rue, vous en voyez.
Ah,
non.
Ah non,
pardon ?
C'est trop froid.
Un
genre d'esclave.
Un genre d'esclave. En tout cas, qui. Oui. Pardon ?
Un sportif.
Un sportif.
Ou un aliéné.
Ou un aliéné.
Il est musclé, mais il est maigre.
Musclé, mais maigre. Oui. Ouais.
Il a une chevelure bizarre.
Une chevelure bizarre.
On dirait qu'il a quelque chose sur la tête. Hein.
Oui. Il a quelque chose sur la tête.
On dirait une sorte de...
Qu'est-ce qu'il un faune.
Une sorte de calotte.
Une sorte de calotte sur la tête. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire, ce truc.
C'est les cheveux qui. Comme il a la tête penchée, c'est les cheveux qui tombent.
Voilà, oui, c'est les cheveux qui tombent, mais c'est vrai qu'il y a, une sorte de, trait là qui fait penser à une sorte de calotte. Mais en fait, non. C'est bel et bien les cheveux qu'il a un peu longs et qui tombent.
Un esclave.
Un esclave.
Un guerrier vaincu.
Un guerrier vaincu.
Moi, je le vois pas souffrir. Je le vois peut-être dans un état de recueillement.
Recueillement.
D'abandon.
Oui, oui.
Alors, c'est sur la position. On a l'impression qu'il regarde un peu quelque...
Il y a presque un sourire.
Dans le vide. Donc, en fait, on a quelqu'un... C'est intéressant ce que vous dites, hein, mine de rien. Enfin, si, mais de quelque chose, d'ailleurs. C'est-à-dire que... Non, vous allez voir pourquoi. Parce que vous avez dit, bon, c'est quelqu'un qui... Alors, bon, qui est accroupi, qui est nu, qui est... Bon, on ne sait pas très bien. Bon, il a l'air un peu recroquevillé. Il est recroquevillé sur lui-même. Il a de souffrir, mais peut-être pas tant que ça. Il est peut-être, comme ça, dans une espèce d'introspection, peut-être interne, hein. On ne sait pas s'il souffre tant que ça, parce qu'on ne sait pas s'il rit pas un peu, mais ce n'est pas si évident. D'ailleurs, c'est peut-être un aliéné, avant que ce soit un esclave, ou un guerrier vaincu, voire un sportif essoufflé. Vous êtes dans tout ça.
Hein.
Et ça tombe bien, parce que tout ce que vous dites, c'est juste. Et ça veut dire quoi ?
Universel.
Voilà. C'est ça, c'est quelque chose qui, voilà, c'est une sorte d'allégorie. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a derrière, c'est pas de représenter Monsieur Bidule en train de faire telle chose. Hein. C'est effectivement quelque chose qui touche beaucoup plus à l'universel que ça. Hein. C'est-à-dire c'est effectivement une figure qui a pour but de montrer ben, tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire quelque chose qui est pas très précis. Hein. C'est pas, encore une fois, un état enchaîné. Hein. On n'est pas dans le réalisme, par exemple, ou même dans certaines figures éclectiques de la dernière fois. C'est pas non plus, vous voyez, c'est pas un élément factuel. On est dans quelque chose qui flotte comme ça un peu. Hein. Entre, c'est fièrement, Malraux aurait pas dit autre chose, d'une sorte de condition humaine. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est effectivement, vous avez utilisé le mot, une sorte de vision universelle de l'homme. Hein. Ça c'est bien cette époque. Hein. Qu'est-ce qui a pu faire une chose comme ça?
Rodin.
Ouais. Rodin. Ou Camille Claudel. Qu'est-ce qui vous fait penser à Rodin d'ailleurs?
La position.
Les muscles.
Ouais. La musculature.
Oui.
L'anatomie.
Ouais. Oui, parce que chez Rodin, admettons que ce soit de Rodin, chez Rodin, vous parliez d'anatomie, musculature. Qu'est-ce que vous auriez à dire de ça chez Rodin, justement ?
C'est une forme d'expressionnisme, en fin de compte.
Oui, on peut dire ça. Oui, c'est-à-dire que, absolument, je trouve que l'idée est bonne. Hein, c'est quelque chose qui, déjà, la figure elle-même, a une expression. Alors, l'expressionnisme serait peut-être un peu plus, comment dire, un peu plus marqué encore. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais effectivement, c'est une sorte d'impressionnisme, une impression, si vous voulez. Sauf qu'un impressionnisme en sculpture, ça n'existe pas trop, on l'a vu. Hein, voilà. Mais vous avez raison, c'est quelque chose qui donne une impression, qui, voilà, c'est, Bien. Ok. Alors, Rodin, Claudel, d'autres idées ? Rodin me paraît une bonne idée, d'ailleurs, pourquoi ?
Parce que c'est un des éléments de la Porte de l'Enfer.
Ça fait beaucoup penser à la Porte de l'Enfer, notamment à quoi ? Au penseur. Hein, je rappelle que le penseur, on en a parlé, je crois, dans un atelier antérieur, hein, c'est une version de la Porte de l'Enfer. Donc l'idée est très bonne.
Mais c'est qu'avec la vie avec
eux, je pensais. Mais vous l'aviez dit, hein, vous l'aviez dit. Et je vous l'avais montré d'ailleurs dans la conférence sur Camille Claudel. Hein. C'est donc Camille Claudel, hein, mais. On avait vu, alors je ne sais pas si tout le monde était là au moment des conférences sur Camille Claudel, mais il y a eu beaucoup d'émulation entre Rodin et Camille Claudel, hein, et entre Camille Claudel et Rodin, et dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des éléments que Claudel a pris chez Rodin, des éléments que Rodin a pris chez Claudel, et les deux, ou des choses. Voilà. Donc là, on a vraiment une œuvre qui, évidemment, fait beaucoup penser aux penseurs. Hein. D'ailleurs, penser aux penseurs, c'est marrant, mais voilà. Donc, mais c'est Camille Claudel. Bien, bravo. Pardon ?
Il est beau,
esthétiquement. Ah, c'est magnifique, oui, donc c'est une très très belle chose. Hein. Très très belle chose. Entrée récemment au musée de piscine de Roubaix, d'ailleurs. Donc, non, c'est une très très belle sculpture. Hein. Ouais.
Quelle taille elle a ?
C'est pas très grand, ça, cette taille-là.
Ah, oui.
Hein, c'est pas très grand.
Ouais.
Non, c'est une chose comme ça. Enfin, bon, peut-être un peu moins. Enfin, vous voyez, c'est de cet ordre. Alors. On voit quelque chose,
oui.
Plus ou moins, bon. Alors, qu'est-ce que vous voyez de... Alors,
Une femme nue agenouillée. Non, assise.
Plutôt assise, hein. Assise avec les jambes sur le côté, hein.
Qui tient sa tête.
Voilà, une femme nue, assise, qui évidemment tient sa tête, comme ça.
Elle est pensive.
Il y a un dragon.
Il y a effectivement un dragon. Mais où ?
Qui sort
au-dessus. Et il y a quoi, ce dragon ?
Il s'envole.
Il y a donc au-dessus, derrière, un dragon qui s'envole.
Il y a un petit personnage sur une sorte de petite maison.
Sur une sorte de petite maison, petite construction, j'ai l'impression. Ouais.
Un toit.
Oui, qui fait penser à un toit.
Comme un archer.
Hein, effectivement, on a l'impression que. Il tient comme ça. Hein.
C'est un cupidon.
Pardon ?
Un cupidon.
Oui, oui. Un cupidon, peut-être. Ok, très bien.
Et entre ses jambes égâtées, il y a quelque chose.
Un animal,
on dirait.
Un petit chien ou un petit mouton.
Oui. À quel endroit vous voyez ça ? Ici ?
Non, le petit.
Ah, là-haut.
Oui.
Je crois que c'est plutôt quelque chose qui, si ma mémoire est bonne, est un élément de. Alors, soit de drap psychique en question, soit d'une sorte d'élément végétal. Capable de le faire mieux tenir.
C'est pas un animal.
Donc, c'est pas un animal. À mon souvenir. Hein. Je peux me tromper, mais. En tout cas, c'est pas un élément fondamental pour comprendre l'œuvre.
On laisse tomber.
Bien. En quelle matière c'est ?
Justement, c'est le dragon qui pose problème.
Oui.
Parce qu'il n'est pas dans la même matière.
Non.
Il est peint de marbre.
Il est. Alors, voilà. Effectivement, le bas de la sculpture est en quelle matière ?
Marbre.
Et le dragon
est peint.
Il est peint, pas tout à fait peint d'ailleurs. Voilà, la photo n'est pas très bonne, mais c'est pas tout à fait peint, c'est
patiné.
Alors c'est un genre de patiné. Enfin,
ciré.
C'est pas non plus tout à fait ça, mais ça se voit mal. Les photos sont vraiment. C'est un type de couverte particulier et valeureuse, mais ça se voit pas très bien. C'est marron là.
Émaillé.
C'est pas émaillé non plus. C'est doré. Tout doré, tout à l'heure. Hein. Donc c'est quoi doré ? C'est quel matière ? C'est quel matériau doré ? C'est un métal. C'est du bronze doré. Hein. Vous avez une sculpture en marbre sur laquelle est fixée, rivée, si vous voulez, un dragon en bronze doré. Bien, vous avez bien vu cette sculpture. Et cette sculpture, elle représente quoi ? Elle montre quoi ? Elle évoque quoi ? Pardon ?
Elle pense.
Oui, elle pense, effectivement. Alors elle pense, décidément, on a vu un penseur, nous voilà une penseuse.
Hein. Elle rêve.
Elle rêve.
Parce que, le dragon, tout ça, c'est dans sa tête, non?
Ouais, donc le dragon serait... Alors, il s'en va. Mm-hmm. Ça veut dire quoi, ça?
Elle le chasse.
Elle le chasse.
C'est les idées noires qui s'en
c'est
vont.
C'est les idées noires qui s'en vont.
Et puis l'amour de l'autre côté.
Et l'amour de l'autre côté, qu'est-ce que ça peut vous...
Une ambivalence.
La complexité de la vie.
Hein. La complexité de la vie, c'est-à-dire qu'en gros, elle pense, elle rêve à des choses bien, à des choses moins bien. C'est ça que hein, ça veut dire.
Être un amour déçu.
Un amour déçu, peut-être.
Un nouveau qui arrive.
Oui, un nouveau qui arrive, peut-être. Si vous aviez à donner un titre à cette œuvre.
Un perdu
10 heures trouvé. J'en vois un, deux, j'en vois pas 10. Hein. Alors ça peut être une... ça peut être un titre. Est-ce que vous en proposeriez d'autres?
Dualité.
Pardon?
Dualité.
Pourquoi pas?
Fantasme.
Allons-y. On est dans le rêve, alors. Hein.
Ouais.
C'est onirique.
Rêve chimérique.
Rêve chimérique.
La fin d'un cauchemar.
La fin d'un cauchemar. Vous brûlez, là, d'ailleurs. Ah. Si j'ose dire.
Ah.
Ouais. Bien. Mais vous avez, alors, là aussi, par rapport à l'œuvre précédente, qu'est-ce que vous pourriez dire, finalement? Qu'est-ce que c'est, finalement, cette sculpture?
Encore une allégorie.
Allégorie, vous voyez, c'est par exemple la foi. Hein, une fille qui tient une... Voilà. Donc là, c'est pas vraiment une allégorie, parce que c'est quelque chose qui est un peu anonyme. Hein. Bien, la figure qui est là, c'est, j'allais vous dire, madame tout le monde. Hein, même monsieur tout le monde, c'est une... Oui, j'ai une femme. Mais dire, c'est une personne de l'humanité. Hein? Et donc c'est, j'allais dire, une allégorie humaine, ou je ne sais pas comment dire, je ne sais pas s'il y a un mot d'ailleurs. Hein? Donc on peut dire allégorie, effectivement, peut-être encore une fois entre guillemets, parce qu'elle est incarnée, cette allégorie, non pas par une figure officielle, hein, par religion, ou la peur, ou je ne sais pas quoi, mais par une personne face à laquelle tout le monde peut s'identifier. Très bien. Donc, ok. Est-ce que vous avez une idée du sculpteur pour vous mettre sur la voie? Je vous dirais qu'il est bon mignon.
Ah.
Oui. Hey. Ah, sculpteur bourguignon, que nous connaissons tous. Est-ce que nous connaissons tous les sculpteurs bourguignons?
Celui qui a fait Jérôme, là, celui qui a fait...
Ah, ça pourrait être une idée. Alors, Jean-Léon Jérôme, alors, il est précisément de la comté, Jean-Léon Jérôme. Il est franc-comtois, puisqu'il est à Vesoul, Jean-Léon. Moi je suis pour l'Europe, la Bourgogne, l'Unie, tout ce qu'on veut. Voilà. Le sectarisme, je ne connais pas, je l'accepte. Mais non, je suis tout à fait. Ce serait une idée. Hein. Mais Jérôme, on en a parlé la dernière fois, donc on n'en reparlera pas cette fois, puisque on est un peu plus loin, si j'ose dire. Mais ce serait une idée, ce serait possible. Jérôme aurait peut-être quelque chose d'un peu plus historique, vous voyez. Jérôme, il aurait mis peut-être une romaine, une grecque, ou je sais pas, enfin, quelque chose d'un peu plus marqué dans le temps. Là, c'est très intemporel. Hein. Cette figure nue, elle est de quand, elle est d'où, impossible de dire. C'est vraiment une humaine.
Est-ce que c'est rude?
Pardon?
Est-ce que c'est rude?
Alors, ça pourrait être rude aussi, hein, rude dont on a déjà parlé. Hein. Alors, rude, c'est pareil. Il est, on l'a vu anciennement, c'est plutôt un sculpteur à l'époque romantique. Mais ça pourrait être Rude, qui est effectivement, avec Jérôme, un des grands sculpteurs de cette grande Bourgogne que nous connaissons. Hein. Mais c'est pas Rude non plus. Oh, c'est un sculpteur bourguignon, et à mon avis, vous ne le connaissez pas. C'est dommage, parce que c'est un sculpteur vraiment très très intéressant, qui s'appelle Jean Dampt. Et bien maintenant, vous le connaîtrez. Jean Dampt, il est né à Vénarey-les-Laumes. Hein. Au musée de Segur-en-Auxois, vous avez une très belle sculpture. Je ne vous dis pas laquelle, parce que vous allez aller la voir. Hein. Donc voilà, Jean Dampt, c'est un sculpteur absolument passionnant. La fin du rêve, vous voyez. Hein, vous avez dit la fin du cauchemar, hein, vous étiez vraiment pas loin. Hein. Parce que c'est un peu ça. Hein. C'est un cauchemar qui s'en va. Et je dirais, il y a l'alternative en haut entre le rêve et le cauchemar. Hein. Et donc cette femme, elle est un peu entre les deux. Voilà, c'est la fin du rêve. Donc une sculpture, vous voyez, on dit que cette époque, c'est une époque plus ou moins symboliste, on comprend pourquoi. Hein. On est vraiment là-dedans. En tout cas, gardez son Jean d'Antes, vous verrez des œuvres de lui au musée d'Orsay, etc. C'est un auteur très important, Jean d'Antes. Hein. Au musée de Beaux-Arts de Dijon, il y en a aussi. Hein. C'est vraiment un sculpteur très important. Hein. Et voilà. Donc, voilà un nom à retenir. Il y en a plein d'autres, mais celui-là, en particulier.
Il avait lu Freud.
Pardon ?
Il avait lu Freud.
Ça, je ne peux pas vous l'assurer. Voilà. Alors, on continue.
Voilà.
Un bas-relief.
En bois.
En bois peint. Bravo. Un bas-relief en bois peint.
Soyez mystérieux.
Il y a marqué en haut à gauche Soyez mystérieux. Donc là, vous avez le titre. C'est pas du jeu. Hein. trop facile.
C'est des naïades.
On dirait du Gauguin.
Oui,
c'est
vrai. Mais ça se trouve, c'est Gauguin d'ailleurs.
C'est Gauguin. Bravo. C'est Gauguin. Qu'est-ce qui vous a fait penser à Gauguin ?
Les visages.
Oui.
Mais qu'il soit mystérieux.
Oui. Oui, absolument. Le titre, effectivement, fait beaucoup penser, vous savez, à des titres des peintures de Gauguin. Quoi. Mais Gauguin était peintre, mais était aussi effectivement sculpteur. Hein. On avait vu, vous savez, au moment de la première séance, je vous ai montré une œuvre de lui. Hein. Et Gauguin est sculpteur. Donc, vous voyez des naïades, mais si vous poussez un peu plus loin, qu'est-ce que vous voyez d'autre ?
C'est des tahitiennes.
Des tahitiennes. Pourtant, cette œuvre a été faite avant le départ de Gauguin pour Tahiti.
Ah ouais. Si c'est renseigné.
Voilà. Donc, c'est effectivement le moment où Gauguin est. Ouais. Il est où avant d'aller en Bretagne ?
En Bretagne.
Il est en Bretagne, d'accord. Bien. Bon, si ça continue comme ça. D'accord. Donc il est en Bretagne. Et genre, est-ce que vous voyez là-dedans des éléments ? Enfin, si vous aviez à un peu. Parce que vous avez parlé de Tahiti, vous n'avez pas tant, parce qu'il va y aller. Donc, quand vous dites, il s'est renseigné. Hein. Mais il y a de la bretonitude là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a de breton ? Qu'est-ce qu'il y a de tahitien ? Qu'est-ce qu'il y a des deux ?
Les flots.
Les flots, c'est très quoi ? Enfin, c'est très Tahiti, bien sûr, mais.
La
personne de gauche a un côté vraiment très, très breton. Hein. On a l'impression qu'il est tiré d'un calvaire breton, vous savez. Mais effectivement, vous avez raison, on est sorte de mélange. Par exemple, la figure en haut à droite, on a l'impression d'une figure lunaire qui viendrait d'une sorte de panthéon océanien. Voilà. Puis la figure du centre peut être l'une et l'autre, enfin, voilà. Et alors, l'idée de Gauguin dans une œuvre comme celle-là, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Son idée, c'est quoi ? Le but dans cette œuvre qu'elle réalise en Bretagne, avant de partir, je crois qu'il est parti un ou deux ans après à Tahiti, c'est quoi ?
Elle a été commandée, elle a dû le visage.
C'est une œuvre qu'il fait lui.
Oui, d'accord.
On va d'une dame à gauche à une autre dame à droite.
Oui.
Que les femmes doivent rester mystérieuses pour. Garder leur intégrité, leur autonomie.
Ouais. Alors, effectivement, il y a de ça. Parce que.
Qu'elles font peur, les femmes, non ?
Je ne sais pas si Gauguin avait peur des femmes, à vrai dire. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il n'avait pas trop peur des femmes. Mais peut-être pas assez d'ailleurs. Mais bon. Voilà. Parce que le titre, il dit quoi ? Soyez mystérieux.
Chacun a son secret. Elle fait quelque chose avec sa bouche, non ? Elle cache sa bouche ou elle
dit tais-toi. Oui, on ne sait pas trop, d'ailleurs.
Elle a sa main.
On ne sait pas ce qu'elle fait. On a presque l'impression qu'elle se mange la main. On ne sait pas. En fait, je trouve que le titre est d'autant mieux trouvé que c'est une œuvre effectivement très mystérieuse. En fait, on ne sait pas. C'est un peu comme le calmique Claudel de tout à l'heure. On ne savait pas trop pourquoi ce bonhomme était prostré là dans son coin. Oui, il était peut-être, en souffrance ou pas. Il était peut-être un prisonnier prostré ou un handicapé, ouais, pas très en forme. Enfin voilà, bon, c'est pas trop.
Ou alors c'est son rêve de voyage.
Ben ouais, c'est un peu tout ça. En tout cas, c'est une œuvre mystérieuse. Elle annonce soyez mystérieuse. Donc l'œuvre, elle est. Et puis c'est un peu ce que vous disiez aussi, c'est-à-dire que il y a une sorte d'injonction qui est évidemment donnée par Gauguin aux femmes. D'être mystérieux, c'est-à-dire que
c'est un ordre.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a pas de point d'exclamation à la fin, mais il y en aura presque un, quoi. Enfin voilà. Hein. Donc il y a un côté, effectivement, vous le disiez, hein, c'est une sorte d'injonction, soyez mystérieuse. D'ailleurs, Gauguin a fait à la même époque, hein, un autre bas-relief en bois peint qui s'appelle Soyez mystérieuse, vous serez heureuse. Hein. Vous voyez, ça. Hein, ça dure, ça veut dire. Hein. Celui-là est plus en suspens, hein, mais c'est quand même quelque chose qui a pour but d'inciter, effectivement, la femme, hein, parce que c'est la femme universelle, si je veux dire, hein, à être mystérieuse, hein, à pas être, à garder cette part du mystère. Donc il y a effectivement une sorte d'injonction pour le bonheur.
Quoi, hein. Oui, mais le paradoxal, c'est qu'il présente un personnage lui.
Oui.
Je mystère ce que vous voulez.
Ouais. Moi, c'est pas parce que qu'elle... je trouve que. Oui, moi je trouve que la nudité dans les rayons mystères. Mais bon, voilà. Évidemment, la nudité, elle donne à voir. Hein? Mais en même temps, est-ce qu'on sait toujours ce qu'il y a derrière quelqu'un? Même si quelqu'un est nu, je suis pas sûr. Donc. Il y a une chose, et c'est peut-être une manière de dire aussi que même nu, il faut rester mystérieux, quoi, vous voyez. Même quand on a l'air d'être pas mystérieux, parce qu'on est, on est nu, quoi, hein, ben, peut-être gardons une part de mystère.
C'est une nudité symbolique, en fait, c'est paradis un peu, c'est elle.
Absolument, alors voilà, en plus, il y a tout à fait ça. Hein. Il y a effectivement cette idée, une sorte de référent, une sorte d'Éden, de paradis terrestre, vous avez raison, hein, on est aussi là-dedans, hein. Ça, c'est tout à fait juste. D'ailleurs, s'il est allé à Tahiti, c'est pour retrouver ça. Hein. C'est pour aller loin de la civilisation, hein, et d'aller dans un lieu où les gens sont rien avec la nature, vivent nus dans une nature. Voilà, hein.
Il n'a pas trouvé.
Non, en fait, pas vraiment. Hein. Et justement, cette œuvre est quelque part prémonitoire. Il appelle ce mystère qu'il veut aller voir à Tahiti. Enfin, ce mystère qu'il veut aller voir à Tahiti. Puis, finalement, c'est presque un ordre qu'il donne aux femmes ici et aux femmes qu'il va voir de rester mystérieuses pour, j'allais presque dire, pour garder leur humanité, quoi. Enfin.
Ouais.
Oui, mais justement, moi, je persiste à penser que ça fait quand même une certaine peur des femmes.
Une certaine
peur, une crainte des femmes.
Alors, peut-être, et, oui, je vois. Je vois ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que peur des femmes, en ce sens qu'on n'arrive jamais à les cerner.
Oui.
Donc, oui, je pense qu'il y a de ça. D'ailleurs, je crois que Gauguin en a fait l'expérience.
Ouais. Donc, il n'est pas le seul. Hein.
Non, non, il n'est pas le seul. Non, il n'est pas le seul.
Moi, je vois la même personne dans les trois personnes.
Peut-être aussi. Peut-être. C'est peut-être la même personne qui est montrée trois fois, de trois façons différentes. En tout cas, vous voyez que dans une œuvre comme ça, vous voyez, ça c'est très différent de ce qu'on a vu dans l'éclectisme la dernière fois. Hein.
Oui.
Ouais, mais, ou dans le réalisme. La dernière fois, on voyait, je sais pas moi, Bellone, bon, une allégorie, Bellone, la guerre, bon. Ou bien on voyait Spartacus qui recevait, vous savez, le dernier soupir d'un condamné, bon. Il y a une chose factuelle, claire. Ben, là, les trois œuvres qu'on vient de voir, c'est une sorte de flottement général. C'est ça le symbolisme. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Hein, ça pioche des références. Vous parliez d'Ève, du jardin d'Éden, etc. Vous aviez raison. Hein. On voit qu'on est entre Tahiti et la Bretagne, donc on a des éléments comme ça qu'on arrive à récupérer, à choper, si vous voulez. Mais en même temps, on est quand même dans quelque chose de très, très, très en suspens. Hein, voilà. Ça, c'est ça. On n'est pas les deux pieds, on est sur des réalités claires. On est un peu embrouillé, mais c'est bien le. Je dirais le but et le charme de ce genre d'œuvre. Alors, je vous montre quand même le cartel, hein, voilà. Ok. 1890. Allez, on continue.
Une tête. En bois.
En bois.
Non.
Alors, c'est sur du bois. Hein. Le fond est en bois. Mais en plâtre.
En terre.
En terre. Alors c'est polychrome, effectivement. En terre, en bois.
Plâtre peint.
Pain en plâtre.
C'est peint en tout cas, non ?
Pain. Plâtre peint, bois peint. Pardon ?
Pas en bois.
Bois.
Non.
Non, pas en bois. Pas en bois.
Bah si, la chevelure, en tout cas,
ça fait très...
Ou alors un genre de papier très...
Un genre de papier.
Oui. La cire.
Pardon ?
La cire.
C'est de la cire. C'est une sculpture en cire. Donc c'est pas du bois, c'est pas du plâtre, c'est pas du papier. C'est de la cire. Hein. C'est de la cire. Sculpture en cire, on n'en parle pas trop, mais ça s'est beaucoup fait. Hein, dès l'Antiquité, évidemment, c'est fragile. Et au 19e, on a beaucoup aimé la sculpture en cire.
On en a déjà vu.
À la fois dernière, je vous ai montré l'œuvre de Messonnier, hein, qui montrait un cavalier dans le vent. Qui était en cire. Alors, quid ?
Un portrait.
Un portrait,
ça me fait penser à Brassens.
Oui, absolument.
Et les yeux fatigués.
Oui, ça fait effectivement penser à Brassens. Ça n'est pas Brassens. Mais c'est un portrait. Oui, donc, on est devant un portrait. Un portrait de quel genre ? Alors, je ne pense pas que vous connaissiez le personnage, peut-être que si. Hein, moi, je ne connais pas du tout. Bref. Je ne connais toujours pas d'ailleurs, mais bref. Enfin, je sais qui c'est. Je ne connais pas son œuvre. Ce personnage, à votre avis, c'est quel genre de personnage ? Est-ce que ce faciès peut vous donner une idée de...
Un artiste.
Un poète. Absolument. Donc, on est devant un poète. Voilà. Donc là, on a un portrait d'un poète. Est-ce que vous diriez pour autant qu'on est là devant une œuvre réaliste ? Un peu.
Oui et non.
Qu'est-ce qui vous fait dire que... Oui, d'accord, mais non. Qu'est-ce qui vous fait dire non ?
Le regard. Très interdit.
Ouais.
Il est quand même vraiment fatigué, hein, donc ça peut être réaliste quand même.
Ouais.
Il n'est pas idéalisé, effectivement.
Il y a les cernes, il y a. Voilà.
La chevelure est plus flamboyante que.
Une chevelure un peu trop flamboyante, pour être honnête, si j'osais. Vous disiez quoi ?
Je disais dans. Tourmenté, en fait, dans la création.
Oui, on sent, d'ailleurs, la chevelure va dans ce sens-là. La chevelure, on a l'impression qu'elle elle bouge en même temps que l'esprit du gars. Hein. Ouais. Donc, réaliste, oui, il est fatigué, il a des traits creusés, des rides, etc. Mais en même temps, des éléments qui... semble pas si réaliste que ça. Hein. Par exemple, cette chevelure qui dit quelque part le personnage, hein, dans cette espèce de tourbillon de la création. Hein. Ok ? Est-ce que vous voyez beaucoup de têtes comme ça toutes seules ?
Non, pas trop.
C'est-à-dire que là, ce portrait, c'est même pas un portrait avec un peu d'épaule et autres qui permet d'incarner le truc. Quoi, hein.
C'est un masque.
C'est une sorte de masque. Hein. Et ça, c'est un peu bizarre aussi, parce que une œuvre, un personnage réel, c'est un personnage réel. Quoi. Au moins, on a envie de voir un peu la corporalité. Là, on a le visage, quoi, le masque. Hein.
Donc, je pense qu'il n'y aurait pas les yeux, ça peut remarquer.
Pardon ?
Mais ce qui est bizarre dans un masque, les yeux, ça peut remarquer. Enfin, c'est un peu faux, non ?
Ah oui, si c'est un masque, oui. Mais c'est un masque, en ce sens que c'est le devant du visage. C'est pas un masque qu'on peut prendre, et voilà. Hein. D'ailleurs, ne le faites pas dans le musée où ça se trouve, parce que je crois qu'il y aurait des problèmes, mais c'est un masque au sens, c'est le devant d'un visage. Quoi. Voilà. Et ça, effectivement, c'est assez particulier. Donc voilà une œuvre qui, par certains traits, pourrait montrer qu'il y a une œuvre réaliste, hein, ride, etc. Mais en même temps, la façon de représenter cette chevelure qui a l'air de suivre les pensées du personnage, créatrice, et puis aussi ce côté étrange d'un masque qui ne va pas plus loin... Voilà qui n'est pas réaliste, hein, et qui nous amène vers autre chose. Alors là, le sculpteur, je ne pense pas que vous le connaissiez. D'ailleurs, moi, je n'arrive jamais à bien prononcer son nom. C'est un sculpteur qui est originaire d'Alsace, d'un village qui s'appelle, je pense qu'on prononce ça, Ilzach ou Ilzach. Ouais. Quelqu'un connaît peut-être ? Non, voilà. Donc on l'appelle Ringel d'Ilsard. Voilà, parce qu'il est d'Ilsard. Donc il s'appelle Ringel, mais d'Ilsard, parce qu'il est original. Voilà. Donc, alors ça présente un poète. Je ne sais pas si vous connaissez le poète. Ce poète s'appelle Maurice Rollina, c'est ça?
Oui.
Oui. Moi, je connais. J'ai bien vu une bricole là de lui. Mais...
C'était à l'époque où ils étaient allemands. Hein.
Oui, absolument.
Oui, mais Rollina,
pas... Non, mais. Si vous voulez, le.
Enfin, il aurait peut-être pas apprécié.
Pardon ? Ah non, pas forcément. Non. C'est-à-dire que si vous voulez, le sculpteur est alsacien, mais le poète n'en est pas forcément. Bien, allez, on continue.
Mais alors, pourquoi vous avez dit qu'il ne faudrait pas s'amuser à prendre des masques pour des masques ?
Ben parce que dans un musée, si vous commencez à toucher vos œuvres, ça va pas le faire. Et puis, le cire, c'est un petit peu fragile. Non. Alors, je suis désolé, la photo est mauvaise.
Une femme en prière,
oui.
En pierre.
Une femme en pierre en prière.
Dans une église.
Dans une église. Sainte Thérèse de
l'Enfant. Pardon ?
C'est pas forcément dans une église.
Mais c'est pas forcément dans une village, prière. Une assiboire. Ah oui.
Et d'ailleurs, cette chose avec un ciboire, c'est quoi ?
L'autel.
Non, c'est la barrière de
ce qu'on appelle la barrière de communion, vous savez, hein, ce qu'il y a, et qui coupe. Alors maintenant, on les a enlevés partout. Bon, là, bref. Enfin, c'est la barrière de communion, c'est ce qui est à l'entrée du cœur, hein, et qui faisait qu'on s'agenouillait devant pour recevoir la communion. Voilà, hein. Donc, c'est la barrière de communion, effectivement. Hein. Donc, cette femme, une femme.
Une jeune fille.
Oui, c'est plutôt une jeune fille. Hein. Voilà, c'est la première commune. Voilà. Alors, c'est pareil, on pourrait dire oh, ben, c'est une réaliste, une jeune fille qui fait sa première communion. Hein, finalement, c'est comme le laboureur ou nos ouvriers de Dalou. Hein,
alors, il y a un de ces vents.
Alors.
C'est une église en
voilà. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça bouge. C'est comme les cheveux de notre poète, de Rollina. Hein. Là, le vêtement de la jeune fille, il bouge. Hein. Effectivement, dans une église, en général, c'est pas trop vanté. Donc là, c'est très vanté, effectivement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
C'est le souffle.
Exactement. C'est le souffle de l'esprit. Elle est là, c'est sa première communion. Elle reçoit pas ça, voilà. Un chewing-gum, si vous voulez, c'est pas quelque chose. Quoi. C'est le souffle de l'esprit. Et d'ailleurs, ce souffle d'esprit, il communie, c'est vrai, avec autre chose, je trouve. Alors, ça se voit mal.
Son visage.
Oui, le visage, effectivement. Hein, voilà, une sorte de visage extatique, hein, c'est Sainte Thérèse, voilà. Effectivement. Hein, donc, vous voyez qu'il y a un réalisme, mais poussé, hein, qui amène bien au-delà de ça. Hein. C'est la première communion, c'est Dieu qui descend sur elle. Hein, on sent qu'il y a une espèce de force là. Bien. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le sculpteur qui a fait ça, qui s'appelle Saint-Marceau, René Saint-Marceau. Vous l'avez peut-être rencontré en disant des choses autour de Proust, hein, parce que c'est un sculpteur que Proust aimait beaucoup, hein, et je crois que cette atmosphère-là peut beaucoup communier avec l'atmosphère Proust. Proustienne. Une atmosphère, je ne sais jamais changer. C'est une atmosphère. Hein.
Oui.
Voilà, une atmosphère proustienne. Hein. Voilà. Donc, Proust aimait beaucoup Saint-Marceau, et on est vraiment bien là-dedans, vous voyez. Une espèce de douce emphase, mais bref. Donc, René de Saint-Marceau. Hein.
Oui, mais la signature, c'est autre chose.
On change de style, hein.
C'est une chaise.
Nous avons un fauteuil avec des accoudoirs. Et pourtant.
Et pourtant, ça n'en est pas.
Oui, c'est un peu rude. Hein. Un petit peu rude.
C'est
rude. Mais c'est pas rude. Alors, il y a un côté plaisanterie.
Oui. Bon. Parce qu'il y a des chats.
Cocasse.
Des chats et des souris.
Il y a des souris et puis des chats qui
pourraient faire. Oui, les souris là-haut. Hein.
Il y en a deux.
Il y a deux petites souris sur le dessus du, du dossier. Hein.
Il y a deux chats.
Pardon ?
Il y a deux personnages.
Oui, il y a deux personnages. Il y a deux femmes. Une derrière et une dessous.
C'est aussi une femme ?
Une femme aussi.
Ouais. On dirait une figure de proue.
Il y a un côté figure de proue, navire, c'est vrai. C'est vrai. Comment ça se... En bois. Car on est en bois. Alors, qu'est-ce que vous... dit une heure comme celle-là. Pas grand-chose.
Bizarre.
Oh, si, c'est des tas de choses. Bizarre, ok.
Alors pourquoi déjà la femme est nue ? Enfin, les femmes sont nues.
Pourquoi pas ?
On n'en est pas là. Avec les chats. Mais la femme qui est dessous, on... il n'y a pas sa tête, en fait.
Si, si. Si, on la voit là.
Ah oui, d'accord.
Ok.
Mais
c'est vous qui dites que c'est une femme, ça pourrait être un homme, non ?
Non, non, c'est une femme.
C'est vrai que
sur les diapos que j'ai vus, non, il n'y avait pas d'ambiguïté, mais.
Parce que là, c'est pas évident.
Je re-regarderai, mais je crois que c'est vraiment une femme.
Moi, je suis content.
Mais je regarderai, parce que j'ai peut-être mal. J'ai peut-être regardé trop vite, hein, mais. Je crois que c'est une femme.
Ça fait un peu art déco.
Oui, un côté art déco, vous avez raison. Hein. C'est beaucoup pensé à l'art déco. Et qu'est-ce qui notamment fait penser à ça ?
Bah, l'utilisation des êtres vivants dans le mobilier.
Voilà, c'est ça. C'est un peu là. À vrai dire, c'est quoi ? C'est une sculpture ou c'est un meuble ?
Voilà.
L'art déco, c'est ça, hein. Notamment. C'est casser les codes. Hein. L'art déco, c'est... des entrées de métro dont on ne sait pas très bien si elles le sont, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas des sculptures, quoi. Hein, c'est des entrées de maison qui sont des figures et qui pourtant portent une sorte de véranda. Enfin, voilà. Hein. C'est des objets, des poignées de portes qui sont en forme de salamandre. Voilà, hein. Donc l'art déco, notamment, hein, c'est quelque chose qui a cette ambiguïté de brouiller les limites entre la sculpture et l'objet utilitaire. Ben là, c'est vraiment ça. Vraiment ça. Donc évidemment, on est dans quelque chose qui est entre le design, comme on dirait aujourd'hui, et la sculpture, et qui brouille les deux.
À notre époque, on pourrait le lire comme une image du sort des femmes.
Absolument. Absolument. Et vous savez que dans les années 60-70, il y a plusieurs artistes, je pense notamment à Hans Bellmer, hein, qui ont fait des choses comme ça, hein, et qui justement ont été vus comme des visions assez, on va dire, phallocratiques. Hein, voilà. Donc, ou phallocrates, parce qu'il faut dire. Enfin bref, donc, oui, vous avez raison, aujourd'hui, quelque chose qui est un peu ambigu quand même. Hein, voilà. Et.
Quelle
époque ? Oui, alors, bon, on est toujours dans la même période. Vous avez une idée ? Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur de ça, qui est quelqu'un qui a fait une série de choses de ce genre, alors plus ou moins... L'Arion, c'est une des pièces les plus dures, parce que le côté asservissement de la femme au meuble est quand même un peu compliqué, si vous voulez. Au 19e, pas forcément, hein, il n'y a pas tout ce qu'on a connu après. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu... Oui, voilà. Et aujourd'hui, c'est rude. C'est vraiment rude. Au 19e siècle, c'est pas forcément comme ça qu'on le voit. Hein. Donc, le bizarrement...
Qu'est-ce qu'il a voulu dire, alors, avec un truc pareil ?
Parce qu'il
y en a un qui est écrasé
sous le siège et l'autre qui a l'air d'être...
Qui s'est marre. Oui, oui. Oui. C'est... Alors, on va dire, c'est un peu pareil. Hein. C'est... Je veux dire, il n'y a pas une histoire racontée. Hein. C'est pas... C'est pas de prisonnières, hein, ou c'est pas de femmes dans un harem, voilà, c'est pas de prostituées dans leur maison close. C'est pas, vous voyez, c'est pas une histoire factuelle. C'est une idée. Et évidemment, en plus, vous savez que le chat dans la peinture, dans la sculpture, est quelque chose qui a une dimension érotique. Hein, vous connaissez Olympia de Manet, bien sûr. Hein, donc vous avez Olympia couché, donc vous savez qu'au bout du lit, il y a un chat. Hein, pas simplement faire joli. Hein, il y a une dimension toujours érotique. Donc les chats ici sont là pour dire quelque chose aussi. Hein. Alors bien sûr, il y a les souris qui mouillent un peu ce pétard-là. Hein, l'idée de la vision érotique est tout de suite un peu, enfin, devient un peu anecdotique par les souris qui sont là. On se dit, ah ben non, les chats, ils sont là pour la souris. Peut-être là pour autre chose.
Voilà. Ils sont là aussi pour
pour faire en sorte que l'horizontale ne soit pas aussi raide.
Aussi, mais en même temps, on aurait pu faire des accoudoirs à couloir. Hein. Là, les accoudoirs sont des champs. Hein. Donc voilà, il y a, si vous voulez, c'est un peu comme dans tout le reste, hein. On est dans une époque symboliste, donc l'idée, c'est pas de dire les choses de manière simple, claire et définitive, comme une histoire avec un début et une fin. C'est de montrer quelque chose, ça peut être aussi lu comme une sorte de dénonciation de la condition féminine, d'ailleurs aussi, on pourrait le voir comme ça. Hein. Et voilà, la femme, c'est ça, il faut en sortir, vous voyez ce que je veux dire hein. Je ne sais pas si c'est ça qu'a voulu mettre dans cette œuvre l'artiste qui s'appelle Carabin, ça ne s'invente pas.
Carabin.
François Rupert Carabin. Voilà. Donc c'est son nom. Hein. Et voilà, donc c'est quelque chose qui peut apparaître, vous voyez, sur plusieurs aspects. Hein, aussi bien une dénonciation qu'au contraire, une forme d'acceptation de tout ça.
Fer forgé.
Il est où,
Par exemple, les souris sont en métal. Alors, c'est pas du fer forgé. Hein. Les souris sont métalliques. Hein. Puis, il y a un certain nombre d'éléments qui tiennent, notamment le dossier, etc. Parce que tout ça n'est pas en bois massif. Hein. Il y a des éléments pour river ensemble différentes pièces qui sont en métal forgé. Hein. Enfin, j'aurais pu mettre métal, parce qu'il y a du métal en même temps du bois. Il y a quelques éléments en métal. Mais c'est du bois essentiellement.
Et je trouve étrange qu'on ait donné comme titre « fauteuil au chat », alors que les femmes tiennent plus de place que les chats.
Bah oui.
Alors, je ne sais pas d'ailleurs si le titre est le titre de Carabin ou les titres donnés à l'œuvre anciennement ou plus récemment, je ne sais pas. Mais je me suis fait la même réflexion. Puis c'est quand même curieux qu'on appelle « fauteuil au chat » alors qu'il y a deux femmes.
Mais elles sont derrière.
Pardon. Elles ne sont pas trop visibles. Les chats sont plus visibles. Avant tout, les chats, on ne voit pas trop les femmes. Mais je regarderai quand même, parce que si le personnage en dessous était un homme, ça changerait beaucoup les choses.
C'est un fauteuil qui a été utilisé comme un fauteuil.
Alors, je sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est resté dans la collection de l'artiste toute sa vie, et qu'ensuite, ça a été dans la collection de la famille de l'artiste. Et ça s'est rentré dans la collection du musée de Strasbourg il y a quelques années.
Hein. Ça doit peser drôlement.
Je pense en plus. Oui, ce n'est pas le genre de chaise qu'on amène devant la télé pour prendre l'apéritif. Hein. Elle est quelque part, elle y reste, à mon avis. Il y a un côté trône aussi. Hein.
Oui.
Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on voit ?
Une femme nue.
Mais voilée.
Qui tient quelque chose.
Qui tient quelque chose. Une idée du matériau. Alors ça pourrait être du bois, ça n'en est pas, mais ça pourrait. Je dis ça bois parce qu'il me semble qu'il y a. Je ne sais pas s'il n'y a pas un exemplaire de cette œuvre qui est en bois, mais je ne suis pas sûr.
Les bronzes en papier mâché, là.
Du papier mâché.
Du bronze.
Je sais qu'il existe des exemplaires en bronze, de ces sculptures. Oui. Alors, c'est pas du papier mâché non plus, c'est du plâtre. C'est du plâtre peint. Vous voyez, la peinture, c'est important dans cette période. Il y a beaucoup d'œuvres polychromes. Il y a une exposition au musée d'Orsay, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, sur la sculpture polychrome au 19e. Alors, la polychromie, c'est une chose très importante au 19e. Donc, une femme nue voilée, debout. Une sculpture donc qui fait cette taille-là à peu près, hein, en plâtre patiné, si vous voulez. Elle tient effectivement quelque chose. Elle tient quoi ?
Une sorte de petite pancarte.
De petite pancarte.
Je sais pas.
Pardon ?
Il y a quelque chose d'écrit.
Oui.
On dirait quelque chose d'écrit, c'est pour ça.
Une statue mortuaire.
Non, je crois que c'est un décor. Je crois pas que ce soit écrit.
Ah bon ?
Je crois que c'est un décor. Genre petite rosette.
C'est
du mortuaire. Pardon.
C'est peut-être une petite pancarte.
Alors, une petite pancarte, est-ce que c'est la seule solution ?
Non, c'est peut-être pas une petite pancarte.
C'est peut-être pas une pancarte. Ouais. Si c'est pas une pancarte, c'est quoi ? C'est pas un petit livre.
C'est ça que vous dites ?
Ah non, un livre. C'est pas un livre non plus. C'est ni un livre ni un livre.
Un coffret ?
C'est un coffret. Elle dit avec moi un coffret qui est en. Qui est également plâtre, mais un plâtre comme on l'a. Doré. Le coffret, il est doré. Autrement dit, quand on regarde l'œuvre et qu'elle est autrement que montrée sur cet écran, qu'est-ce qui ressort? La dorure. Hein, vraiment, le coffret, on ne peut pas ne pas le voir. Hein. Si vous aviez un titre à donner...
Mais il y a quoi au-dessus du coffret? J'arrive pas à voir.
Eh bien, elle tient...
Elle a sa main.
Elle tient le coffret. Il y a la main en dessous, il y a la main au-dessus. Et il y a un peu du voile. Parce qu'elle a le voile qui passe un peu devant son visage, hein, devant sa bouche d'ailleurs, et qui est un peu en tapon sur le coffret. Alors, il y a la main et puis un peu du voile.
Ça fait très secret.
Très secret.
Oui.
Ben, ça tombe bien.
C'est le secret.
Comme vous voyez, donc ça, c'est un artiste qui s'appelle Fix Masso. Il y en a un qui s'appelle Le Secret. Alors là, en termes de mystère, on ne fait pas mieux. Hein, c'est le sujet de l'œuvre. Voilà une œuvre qui... Alors là, sur les autres, on s'est creusé les ménages, hein, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, etc. Là, de toute façon, c'est pas ce que c'est, ça fait Le Secret. Le Secret, on ne saura pas. C'est un peu une boîte de Pandore, hein, mais c'est là, un épisode mythologique. Là. Le Secret de Fix Masso, très belle sculpture, qui au moins annonce la couleur. Le Secret, c'est le thème de l'œuvre.
Ça bouge, hein.
Ça bouge. Pardon. C'est la Loi Fuller. Alors, vous savez qui c'est, la Loi Fuller?
Oui, c'est une danseuse.
C'est une danseuse, hein. Originaire d'où, d'ailleurs? Voilà, c'est ça. Elle est originaire d'Amérique. Hein. Mais je crois que c'est Argentine via les États-Unis, il me semble. Et elle est de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'était une danseuse, évidemment. Quelle était sa particularité?
Elle
dansait avec des voiles extravagants. Hein. Donc c'est une danseuse fin de siècle, on va dire, qui était extraordinairement célèbre. Hein. Vous avez vu les films là, longtemps, hein, très saccadés, hein, début du cinéma. Hein. Et on voit évidemment une personne qui, avec ses voiles, fait des choses extravagantes, qui avait une énergie folle, hein, et ça donnait des trucs incroyables. Hein. Donc là, Loi Fuller a beaucoup, beaucoup marqué. Et du fait de la performance technique, hein, je ne sais pas comment elle terminait ces trucs, hein, mais quand on la voit même sur ces films archaïsants, on se dit, mais en fait, on a l'âge de loup, quoi. Et qu'est-ce qui a peut-être frappé aussi...
C'est elle qui est morte étranglée.
Non, ça c'est Isadora Duncan. Avec son écharpe. Dans la voiture.
Oui.
Une autre danseuse. Oui, qu'est-ce qui a frappé dans le travail de Fuller qui peut-être apparaît à celui-là, là?
Le lyrisme.
Oui, le côté lyrique, voilà.
La taille des voiles par rapport à elle.
Oui, c'est ça, une sorte de démesure. C'est, voilà, une danseuse, mais les voiles sont gigantesques. Hein, donc c'est, voilà.
Puis elle a abandonné le style de la danse classique.
Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'on en était quand même au lac des Cygnes, vous savez. Bon, et là, on est devant une fille qui est...
Le lac des Cygnes.
Et là, on est, vous voyez, devant quelque chose qui casse les codes, quoi. Hein, et qui le casse de quelle manière? Il s'agit qu'est-ce qu'elle fait en se s'agitant sur la scène avec des grands voiles immenses qui la dépassent?
Elle fait beaucoup de mouvements, elle fait du...
C'est ça, une espèce de mouvement qui suit la musique, quoi. Enfin voilà. Et, ouais.
Elle
est sensuelle. Une sorte de côté libre, sensuel. Hein, donc c'est effectivement une liberté tous azimuts, pourrait-on dire. Ouais.
Mais c'est tellement sensuel que dans le mouvement du voile, il y a une tête d'homme qui est à l'envers.
On pourrait voir ça, absolument, oui. Oui. C'est une chose qu'on aime beaucoup au 19e, c'est-à-dire mettre des éléments d'amorphose. On a fait un atelier là-dessus, vous vous rappelez, des années. On aime bien faire ça, oui, c'est vrai. Donc on peut s'amuser à voir une tête humaine, une tête masculine peut-être.
L'élévation, la tête de l'absolu.
Oui, c'est ça, une sorte de fou, elle se dépasse, un dépassant.
Ça fait une corolle de fleurs.
Ça fait penser à ça aussi. Ouais. Il y a aussi un côté, si vous voulez, un peu primitif, hein, un peu barbare, quoi. Hein, parce qu'elle n'est pas là, elle va faire des entrechats sur ses pointes. Elle fait un truc. Effectivement, ça ne s'est jamais vu. Et on a l'impression d'une danse préhistorique, vous voyez ce que je veux dire. Hein, un truc vraiment fou, avec une musique tonitruante. Vraiment, c'est on n'est pas le père Garnier, quoi. Enfin, hein, c'est vraiment très étonnant. Donc, tout ce que vous dites est vrai, donc ça a beaucoup fasciné. Et vous voyez que ça a fasciné aussi les sculpteurs. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une œuvre d'un artiste qui s'appelait Fernand Massignon, mais qui, après un pseudonyme, Pierre Roche, qui était d'ailleurs le nom, je crois que c'est de son grand-père, me semble-t-il, qui était sculpteur. Et pour quelque chose pérenniser l'œuvre de son grand-père, il a pris son nom, qui était Pierre Roche. Voilà. Pardon ?
C'est du bronze.
Oui, oui, oui. C'est du bronze. Voilà.
Je pensais à Ophélie, là.
Oula. Ah oui, on dirait Ophélie dans l'eau.
Avec ses fleurs.
Oui, ses fleurs, oui. Elle saigne. Les seins saignent.
Purée. Elle a des cheveux en arbre.
Oui.
Et le sang se transforme en fleurs.
Oui. Ouais. Spécial, hein.
Ah oui, il a fumé.
Quand on voit ça, on a l'impression d'être devant quoi ?
Une idole.
Mm-hmm. Son entrée dans quelques temps.
Une déesse de la nature.
Une déesse de la nature.
Une table d'anatomie. Ah, oh, dis donc.
Une anatomie un peu spéciale. Mais effectivement, quand on voit ça, on a l'impression d'une idole. D'ailleurs, vous voyez, c'est en bois, hein. C'est pas un bon arbre, bien. C'est en bois. Hein. Pas n'importe quel bois d'ailleurs. C'est de l'acajou. Hein. Ouais. Un bois rouge, comme le sang.
Et puis le visage aussi, c'est très exotique.
Oui, c'est très exotique. Hein. Vous voyez qu'on est là, effectivement, mais on en a parlé, hein. On est là dans cette période qu'on appelle symbolisme, primitivisme. Vous voyez, on est bien là-dedans. Hein. Voilà une œuvre qui travaille cette question-là. Un peu dans le sens d'un Gauguin tout à l'heure, si vous voulez. Hein. Voilà.
Mais alors le sang, est-ce que c'est signe de mort ou de vie ? J'ai un peu du mal à penser.
Ça peut être les deux. Moi, je me pose la question et je n'ai pas la réponse.
Une question seule.
Ça peut être les deux, parce que le sang sort des seins, donc pour un moment, donne la vie, si vous voulez. Vous allez voir que le titre de l'œuvre montre que cette divinité-là, vous avez dit une idole, hein, une divinité, est en fait une divinité plutôt favorable. Donc je ne pense pas que ce soit une œuvre, vous voyez,
macabre.
Voilà, macabre, merci. Voilà.
Mais ça ne pourrait pas être du lait ?
Ben, c'est du lait sang, effectivement. C'est du lait sang, vous avez raison. C'est une sorte de lait, sauf que ce lait, c'est le sang, mais le sang, il est bien utile à nos corps. Hein.
C'est donc,
pardon ?
C'est
quoi, je pense ?
Salut, grenadine.
Ça, c'est pas mal. Je le dis que c'est pas mal. Bravo. Là, je voulais dire que c'est... Voilà. Donc, voilà une œuvre très, très, très ambiguë, effectivement. Une idole, une déesse, un peu comme ça, dans un bois.
C'est quoi, c'est un bas-relief ou c'est...
Oui, c'est, en tout cas, c'est un relief. Hein. Ouais. Alors, qui est quand même assez creuseux, peut-être un haut relief, mais c'est un relief, c'est plat derrière.
C'est plat derrière. Ouais.
C'est plat derrière. Alors, c'est d'un sculpteur qui s'appelle Lacombe, qui a fait des peintures aussi, d'ailleurs. Et ça s'appelle Isis. Vous savez, Isis, on en a parlé il y a 2 ans, hein, au moment de l'atelier sur l'Égypte. Isis, une divinité tout à fait favorable. Hein. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit... Mais en même temps, Isis, c'est une déesse. Hein, c'est la sœur d'Osiris, tout ça, il y a du lourd. Hein, voilà, hein, donc Isis, ce n'est pas une petite... Hein, voilà. Donc, tu sais, c'est quand même une déesse. Hein, mais une déesse qui pourvoit, quelque part. Donc, ce lait grenadine, comme vous disiez, il est plutôt favorable qu'autre chose. Mais en fait, c'est une déesse, donc elle est quand même impressionnante.
Ah, et quelle taille, ça
fait ? Oh, c'est assez grand, hein. C'est à peu près grandeur nature. Ah. C'est vraiment bonne. C'est une œuvre qui fait facilement 1m60, 1m70 de haut. Hein. C'est une grande pièce. Hein. En plus, ça a été sculpté en taille directe, vous voyez, il y a un côté brut. Hein. C'est pas un truc chichiteux, un peu... Ça y va, quoi. Hein. Alors,
on va
se
coucher là.
Ben oui. Autant on dit, oui, il fait noir.
C'est du plâtre.
C'est du plâtre. Ça représente quoi ?
Un peu
Un sort de manteau, de peignoir.
Oui, mais il a fait creuse.
Ben, c'est creuse.
C'est creuse.
Par contre, les pieds, ils ont
leur manteau. Ben, oui, il y a un côté. Il y a un côté, il y a quelqu'un dedans, mais ce quelqu'un, on ne le voit pas. C'est l'homme invisible. Ouais. C'est spectral.
Oui,
c'est étrange. Hein.
Si, il y a des pantoufles, il y a des pieds.
Oui, on voit un pied.
Oui,
on en devine un là. C'est quoi ça?
L'homme invisible.
De fait, c'est un peu ça. Vous trouvez ça moche?
Oui.
Oh, je trouve ça extraordinaire.
Ah, c'est bizarre.
Ah, je trouve que c'est une œuvre extraordinaire.
Ah, non, parce que ça m'interpelle trop. Alors, c'est
pour ça. Ah, oui. Oh, on a chacun nos voilà, nos goûts, nos... c'est normal, hein.
La tendance est singulière.
Ah, c'est singulier, c'est incroyable. Ouais. Donc, vous savez, il y a des sculpteurs contemporains dans les galeries de New York qui font ça aujourd'hui. Sauf que ça, ça a plus de 100 ans.
C'est pour ça que ça me plaît, parce que l'art contemporain,
moi,
j'aime beaucoup.
Ah, ouais. Ah, mais ça veut dire que ça fait du bien. Il faut que ça travaille.
Hein. Une œuvre habitée.
Une œuvre habitée. C'est quoi? C'est un manteau, vous savez, un peignoir, etc. On voit des pieds, d'accord, mais tout le reste est vide, alors qu'on sent pourtant un corps en dessous et qu'il n'est pas là. C'est un homme invisible. Et avant d'aller, c'est quoi? Quel est le statut de cette œuvre?
Est-ce que c'est un vrai vêtement qu'on aurait plâtré?
Alors, il me semble que oui. Il me semble que c'est un vrai vêtement plâtré. Je n'ai pas pu le vérifier, mais je crois que oui. En tout cas, certains éléments, oui.
Bah, il y a une idée de l'absence.
Pardon ?
Il y a l'idée de l'absence. On s'attend quand même à ce que ça soit.
Oui, voilà, le vide,
incarné.
Oui, voilà.
Ouais, qui est quelqu'un, qui ça bouge, quoi.
Voilà.
Ouais.
Alors, c'est comme un négatif d'un côté.
Oui. Une idée d'un auteur.
On le connaît ?
Oui. Oh, pour vous le faire trouver, je vous dirais même que c'est le sculpteur du 19e siècle que vous connaissez.
C'est Rodin.
Et vous savez ce que c'est?
C'est
le manteau de Balzac. C'est que Rodin a fait un Balzac extraordinaire. Moi, c'est une des sculptures préférées. Vous connaissez ce Balzac de Rodin qui ressemble à un espèce de poteau pas droit? C'est une œuvre extraordinaire, vraiment. Hein. Alors, il a mis beaucoup de temps. Au départ, il avait fait un Balzac tout nu, et puis voilà. Finalement, il a beaucoup travaillé sur le vêtement, d'où le fait qu'en fait, cette œuvre a un statut un peu particulier. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui est quelque part une étude, vous voyez. Mais enfin, le problème chez Rodin, c'est que tout est une étude. Alors, chez Rodin, une œuvre comme ça, même si c'est une étude, c'est déjà une œuvre. Parce que toutes les œuvres de Rodin sont des études. Rodin est quelqu'un qui n'a jamais vraiment fini, si vous voulez. Parce que tout est en cours chez Rodin. C'est pas fini. Porte de l'enfer, c'est pas fini. Il n'y a rien de fini. Et tout l'est. Hein, les œuvres de Rodin sont toutes des études. Donc ça, c'est une étude. Mais elle est aussi finie que n'importe quelle autre œuvre, tout aussi étude non finie. Et en même temps, achevée. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais son Balzac, il était fini quand même, et il a pas voulu parce que c'était trop...
Alors, le Balzac, c'est une histoire très, très complexe, parce qu'en plus, il l'a fait suite à une commande, et son œuvre n'a pas été acceptée, c'est donc un autre qui a été accepté, mais il a continué quand même, et il a été quand même coulé en bronze, c'est vrai que maintenant, il y a, alors c'est du côté du boulevard Raspail à Paris, le Balzac qui est là, mais qui n'est pas celui qui avait été commandé au départ. Il a été mis après la mort de Rodin.
Mais c'est presque une performance.
C'est un côté performatif, parce qu'il faut que ça tienne quand même. Alors on peut mettre du plat, etc., mais enfin, c'est pas... Techniquement, à mon avis, c'est pas si simple. Pas la joie. Je suis sûr que vous connaissez ça. Il y a marqué « aux morts ». Donc, c'est un monument aux morts. Okay. Ça représente quoi?
Des personnages nus.
Ah, des personnages nus, oui.
C'est pas sur l'Holocauste avec les personnes.
Alors, ce serait un peu trop tard, si j'ose dire.
Oui.
Ça fait un peu égyptien.
Il y a un côté égyptien, ouais. Côté mastaba, hein.
Oui.
Côté mastaba, c'est vrai. Tout à fait.
C'est un tombeau, non?
C'est un monument aux morts, en fait. C'est pas vraiment un tombeau, c'est quelque chose qui évoque les morts. Et ce monument est où ?
Jugement dernier.
Je pense que vous l'avez tous vu. Mais je vous l'ai dit, hein, les Israéliens, on ne les voit pas, même si on les voit. Ça, c'est clair. On en fait tous l'expérience tous les jours. Parce que c'est à l'entrée du Père Lachaise, tout simplement. Quand on va au cimetière du Père Lachaise, pouf, on tombe là-dedans. Mais on ne regarde pas, comme le reste. Père Lachaise. Donc c'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Bartholomé, une œuvre que je trouve très puissante pour ma part. Hein. 1899, hein, c'est... Voilà, donc c'est la porte de l'au-delà, si vous voulez. Hein. Quand même fort. Hein. Donc voilà, c'est une œuvre très très puissante. Bartholomé, hein, vous voyez, on est là vraiment dans la lignée de ce qu'on a vu. Regardez les personnages qui sont à droite et à gauche pour être les personnages qu'on a vus durant toute cette séance, d'une certaine manière. Hein. Voilà. Bartholomé, un très très intéressant sculpteur.
Une tête de méduse.
Donc vous connaissez les gorgones et les méduses.
Les serpents.
Voilà. En quelle matière ?
C'est pas de la terre.
C'est pas de la terre cuite, c'est pas du bois.
Pas de la céramique.
Il y a une matière que vous n'avez pas citée.
Parce qu'il est mâché.
Pas du papier mâché.
C'est du verre.
Ce qui montre justement l'extraordinaire inventivité de la peinture, de la sculpture au 19e. Hein. On travaille tous les matériaux. Ça, c'est une cure en verre. Alors, ça, c'est un sculpteur qui a beaucoup travaillé le verre, qui a notamment travaillé avec Rodin. Rodin s'intéressait beaucoup à cette question des matériaux. On vient de le voir avec sa robe de chambre de Balzac. Hein. Et Cross, c'est le nom de cet artiste, a beaucoup travaillé le verre. Donc, l'œuvre, la méduse, quelque part, bon, on l'a déjà vu, hein. Mais le fait de la travailler en verre donne une impression un peu surréelle, quelque part. Et Cross est un artiste vraiment tout à fait singulier à cause de ça.
Mais comment on peut travailler la pâte de verre ? Parce que c'est chaud.
Eh bien, on va demander à lui.
Il faut un moule.
Je pense que c'est moulé, de toute façon. Mais après, il y a des couleurs et autres. Donc, tu vois, c'est par exemple, les serpents, ils sont verts. Et par exemple, il a fait. Cross a fait aussi un portrait de Camille Claudel, par exemple, en vert, hein, mais où les yeux ont une couleur.
On ne sait pas du tout la technique.
Si, on la sait, mais moi, tu vois, je.
Tu cherches.
Oui.
C'est l'époque de Galet.
Oui, voilà. Il y a vraiment. C'est une technique que l'on maîtrise très très bien. Il faut être verrier. Hein.
Ouais.
Donc c'est tout à fait possible. Mais évidemment, ça donne des choses. Quand on est devant une œuvre comme celle-là, il y a une espèce de translucidité qui fait que c'est très curieux. Hein. La tête de Méduse est à la fois vraie et fausse. Elle est, voilà. C'est la matière est spéciale. Je continue les dernières un peu rapidement pour que je puisse vous montrer la question du jour, quand même. Ça. Une femme avec des cymbales. Moi, ça me rappelle quelque chose. Elle fait quoi ?
Elle danse.
Oui, et puis par rapport à ce qu'on a vu. C'est vraiment ça, l'œil fumeur. Alors, c'est moins extravagant. Hein. Si je vous montrais ces sculptures de côté, vous verriez, c'est très mouvementé. Hein. J'aurais pu d'ailleurs peut-être mettre une deuxième image. Hein. Alors, c'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Ségoffin et qui s'appelle La danse sacrée. Et c'est un peu la chose de l'œil fumeur. Vous voyez, c'est une danse un peu barbare. Et là, on sent qu'elle hurle. On est peut-être dans un temple antique avec une pythie qui est en train de taper sur ses cymbales. Une sorte de l'œil fuleur mythologique. Si vous donc on est, vous voyez, dans quelque chose qui est là, dans une sorte d'univers antiquisant particulier.
Un archer.
Lequel ?
Bourdelle.
Alors, c'est le bordel.
Je suis alcool.
C'est le bordel. C'est
Héraclès.
Héraclès.
Donc Bourdelle, vous savez, c'est le jeu qu'on avait au départ avec le centaure. Hein. Oui, oui, donc vous voyez là la reprise de. Ce qui commence à vous montrer qu'on on aime beaucoup à cette époque symboliste réhabiter des thématiques mythologiques. Hein, en le faisant d'une manière un peu novatrice. Rappelez-vous Cross il y a un instant, avant le centaure de Bourdelle au départ. On reprend ça, on réhabite la mythologie gréco-romaine. On se la réapproprie, si vous voulez.
Hein. Il y a une patte de lion. Hein.
Il a une patte de lion. Vous voulez dire ça ?
Non.
Ah là, oui. Ben, en plus, il a vaincu le lion de Némée. Donc, Bourdelle n'est pas un réaliste, effectivement. Il y a un côté comme ça, un peu brutal, effectivement. Voilà. On arrive à la fin. Puis après, la question du jour, beaucoup plus rapidement.
Du bois, toujours.
Du bois.
On dirait ça.
C'est du bronze, en fait. Mais c'est vrai que ça fait penser au bois. C'est du bronze d'après les originaux en plâtre. Vous savez que l'artiste a fait d'abord un plâtre et puis ça a été tiré en bronze. Ça présente quoi ?
Un personnage.
Un personnage.
De dos.
De dos. C'est une
avec
femme.
Hein.
Ouais. C'est une femme nue de dos. Hein.
Ouais. On voit les cheveux longs, et elle a un bras long.
Vous voyez, elle lève. Hein, voilà. Je n'ai pas de cheveux longs, hein, mais elle fait ça.
Et vous voyez, c'est ça, ça, non ?
Alors, ça pourrait l'être, parce qu'on n'est pas très loin.
C'est Matisse.
C'est Matisse. C'est une œuvre de Henri Matisse. D'accord. Je crois que j'en ai encore deux, puis après on fait en vitesse la question du jour.
Comme c'est gay.
C'est un homme qui tire deux têtes.
Oui.
Oui, mais il y a un marteau,
oui.
Il y a des outils à ses pieds. Il les a sculptés, les têtes.
Oui,
oui, c'est lui qui a sculpté les têtes.
Autrement dit,
c'est un
sculpteur. C'est une sorte de portrait, on pourrait dire. Hein. Un sculpteur qui représente un sculpteur, peut-être lui. Peut-être lui ?
Non, parce qu'il est vêtu plutôt à la mode antique.
À la mode antique. Ah, oui. Donc c'est un sculpteur qui représente un sculpteur antique. Oui. Une manière de montrer une sorte d'antiquité de son propre travail. Oui. Oui. Ben, c'est bien vu, parce que c'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle... Encore un bourguignon. Que, bien entendu, on ne connaît pas. Comme d'habitude. Pourtant, Bouchard, il l'a fait à Dijon. Au pied de la tour de Bar, une sculpture qui représente Klaus Schlüter. Mais c'est ça. Hein, c'est Bouchard. Hein. Bouchard, un sculpteur vraiment très important. Il n'est surtout pas connu en Bourgogne. C'est un ordinateur important. C'est comme Dante. Hein. Bouchard, des gens vraiment importants. Et vous voyez, c'est intéressant parce que Bouchard, il a, au moment de la réalisation du musée des Beaux-Arts de Nîmes, l'architecte du musée des Beaux-Arts lui avait demandé de réaliser deux sculptures figurant un sculpteur, un architecte romain. Il se trouve qu'on a trouvé, je crois que c'est à Bordeaux, une stèle d'un sculpteur qui s'appelle Amabilis. Alors lui a, j'allais dire, refait une sorte de portrait idéal d'Amabilis. Et lui, étant sculpteur, il a fait son collègue qui a vécu 2000 ans avant lui, si vous voulez. Voilà, c'est l'idée. D'où cette sculpture que vous voyez là. Donc vous voyez, cette époque symbolique, décidément, reprend l'Antiquité pour se l'approprier. Et un petit dernier pour la route.
Ça, c'est bon.
Et ça, c'est bon. Voilà, tout le monde le connaît, par contre, en Bourgogne. Heureusement, c'est un artiste formidable. Hein. En quelle matière ?
Bronze.
Alors, ça pourrait être... Moi, j'en ai vu l'exemple en bronze. Là, c'est du marbre noir. Vous savez, les pompons, c'est quelqu'un qui travaille à taille directe. Pompon a été un des appariteurs de Rodin. Hein. Donc, Pompon, il taille le marbre direct. Hein. Voilà. Et donc là, c'est une extraordinaire tête d'orang-outan par Pompon. Hein. Mais vous voyez, quelque part, on a quelque chose qui, moi, me rappelle un peu le Lacombe de tout à l'heure. Vous savez, Isis. C'est-à-dire une sorte de... presque une divinité. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ce côté comme ça, hiératique. D'ailleurs, rappelez-vous, en Égypte, on a des babouins, par exemple.
On
est un peu là-dedans, vous voyez ce que je veux dire. Ah, il y a un côté... Pompon était passionné par l'art égyptien, évidemment. Hein. Il le pousse encore plus loin, si j'ose dire. Hein. Donc c'est un sculpteur vraiment passionnant. Pompon, et là, on a une œuvre majeure et impressionnante. Quoi, hein. Voilà. Tête de rond. Voilà. Alors, oui, vous connaissez le cochon, le taureau de Saulieu, l'ours de Dijon. Alors, pour terminer en 5 minutes hein, avec la question du jour, et pour nous amuser 2 minutes, je me suis dit qu'il fallait aborder, vous savez que dans la question du jour, on aborde une question transversale à tout le 19e siècle. Hein. On essaie de voir comment au 19e siècle, il y a des grandes thématiques. Hein. Au départ, on a vu la question de l'expression. Hein. On a vu dans un deuxième temps comment, dans les monuments publics, la sculpture avait une place importante, Opéra de Paris, Arc de Triomphe, etc. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu de la sculpture funéraire, parce que le domaine du funéraire est un domaine très important dans la sculpture 19e. Hein. En fait, nos cimetières sont des musées de sculpture. Là aussi, on ne voit pas de moins en moins d'ailleurs, parce que très souvent, on détruit tout ça, sans s'en occuper du tout, hein, parce que surtout, on ne touche pas aux morts, vous pourrez toucher. Voilà. Ce qui fait qu'on a des musées en plein air extraordinaires qui disparaissent, dans le plus grand silence. Tout le monde s'en fiche. C'est vraiment dommage. Alors heureusement, il y a quand même des cimetières classés, le Père Lachaise, etc. À Besançon, il y a un cimetière qui est partiellement classé, à Amiens aussi, heureusement. Mais il y a beaucoup trop de choses qui disparaissent, c'est vraiment dommage. Hein. Tout ça parce qu'on ne connaît pas la sculpture en France au 19e. Et quand on se réveillera, ce sera trop tard, c'est comme toujours. Voilà. Alors connaissons la sculpture de la France au 19e, parce que ça permettra d'éviter des drames patrimoniaux qui se produisent en ce moment sous nos yeux. Alors regardons quelques sculptures rapidement. Ça, qu'est-ce que ça vous dit ?
La mort de Louis XVI.
Hein. Oui, ça montre effectivement Louis XVI. Hein, c'est une sculpture qui est faite pour quel endroit ?
C'est la chapelle qui est boulevard Haussmann.
C'est ça. C'est ça, la chapelle, ce qu'on appelle la chapelle expiatoire. Ouais. Très bien. On verra les cartels après. Hein. Et ça ? Ça vous dit quelque chose ?
Non. Un tombeau, non ?
Un tombeau, absolument. De toute façon, c'est tout du funéraire.
C'est tout du tombeau.
Ouais. Ouais.
Qu'est-ce qu'il a à la main ?
Il y a un ange,
non ? Il y a un ange à sa tête, ouais.
Oui, il y a un ange qui pleure en bas.
Ouais. Vous savez où c'est, ce que c'est ? Non ?
Non.
On va voir. Je pense aussi parce que l'idée, c'est plutôt, voilà, de voir des... Et ça ?
Là, ça, c'est extérieur.
Ouais.
Oui. En bronze.
En bronze.
Un
gisant, ouais. Vous avez une idée soit du personnage représenté, soit de l'auteur ? Non ? C'est pas grave. L'idée, encore une fois, de la question du jour, c'est voilà, de remuer des trucs en fin de séance.
Bon, ça, c'est un tombeau.
Ouais. Ah, on voit mal, mais bon.
Non, c'est un tombeau.
C'est un tombeau.
On voit bien ?
Ouais.
Ouais, c'est un tombeau avec, vous voyez, des médaillons. Vous vous rappelez du nom du type qui avait fait la caricature de Berlioz ?
Oh, oui.
La prochaine fois, il va falloir bosser beaucoup. Hein. La prochaine fois, ça va y aller. Hein. Ça, est-ce que ça me rappelle quelque chose ?
Préau, oui.
Oui, absolument.
C'est lui ?
C'est lui. Alors, c'est pas lui qui a présenté, mais c'est lui qui a fait l'œuvre, absolument. C'est le silence de Préau qu'on a vu tout à fait au départ. Hein. Vous voyez qu'on est tout à fait dans le genre d'idée.
Hein.
On verra ce que c'est après. Pardon ?
C'est pas Sarah Bernard ?
C'est pas Sarah Bernard, non. Mais c'est vrai que ça pourrait.
Elle est sur le ventre.
Pardon ?
Elle est sur le ventre.
Elle ?
Oui, il, c'est un.
Il.
C'est un.
Il. C'est un monsieur.
C'est ton nom.
Si c'est un monsieur, c'est un monsieur. Quel genre de monsieur ?
Désespéré.
Non.
Non.
Il est mort.
Oui.
Un poète.
Pas un poète.
Un acteur.
Un écrivain.
Pas un acteur, pas un écrivain.
Un musicien.
Pas un musicien.
Non, il a pas, de...
pas un politique, pas un artiste.
Un sculpteur. Non.
Pas un sculpteur.
Pas un artiste.
Pas un artiste.
Un
prêtre.
Un prêtre. Ah oui.
Il a une robe.
Ah ben oui.
Il a une robe. Un prêtre. Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Des problèmes. Et même un gros.
Martyrisé.
Il a été martyrisé. On verra pourquoi.
On dirait tous les autres.
Tous les autres. Il y a un petit coup. Rappelle celui qui a fait l'infante.
Jean Carme.
Qui a fait l'infante.
Carriès.
Jean Carriès. Hein? Et alors ça,
c'est dans une église.
C'est dans une église, même une cathédrale.
Et un pape, non?
Oh, c'est pas tout à fait un pape, mais on n'est pas loin. Si
un évêque.
Un évêque. Un évêque, oui, qui ne se mouche pas du pied.
Félix, Félix Dunlop.
Pas Dunlop, non. C'est Monseigneur Dupanloup. Qui est un membre de l'Académie française, qui a eu au XIXe siècle beaucoup d'importance, qui défendait notamment l'école religieuse, qui n'était pas vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un qui faisait partie du clergé progressiste, nous dirons. Voilà, hein. Monseigneur Dupanloup, qui a été évêque d'Orléans, ça, ça se trouve avec Avaler. C'est le tombeau de Monseigneur Dupanloup.
Mais c'est où ?
À la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans.
Guillaume,
c'est qui? C'est le sculpteur?
Non, c'est la tombe de Guillaume.
C'est la tombe de Guillaume. Et Guillaume, c'était qui, à votre avis? C'était pas un aviateur, ce Guillaume-là.
Non, c'est un explorateur.
Un explorateur?
Oui. C'était pas un explorateur.
Parce qu'il y a une jeune fille, moresque.
Pardon?
Elle fait penser à l'Afrique du Nord.
Oui, absolument. D'ailleurs, cette œuvre s'appelle La jeune fille de Boussada. Donc, effectivement, c'est la référence à l'Afrique du Nord.
C'était un administrateur. Hein.
C'était un peintre, en fait, Guillaumet.
Oui.
Donc, c'est la tombe d'un peintre qui est un orientaliste, hein, Guillaumet. Donc, voilà, c'est une évocation de cela. Et là.
Agissant.
Et il est raide. Un artiste.
Oui, il a un chapeau. Il a un
haut de forme. Il y a que les artistes qui ont des hautes formes. D'accord.
Non, c'est des hommes. Ça peut être un politique.
Un homme politique.
Et pourquoi est-ce qu'on le touche de partout?
Ah.
Bon, on ne touche pas de partout.
Mais non. Si,
on touche à certains endroits.
Il y a certains endroits.
Alors, on va voir tout ça. Là, vous l'avez bien vu, c'est effectivement dans la salle expiatoire, une œuvre de Bozio. On a vu des œuvres de lui, rappelez-vous, la première séance, hein, enfin la deuxième. Hein, Bozio, c'est donc une des œuvres de Louis XVI. Il y a le même groupe, c'est-à-dire avec Marie-Antoinette de l'autre côté, hein, l'expiatoire qui a été effectivement fondé à Paris pour expier la mort du roi et de la reine. Ça, c'est le groupe avec le roi. Ça, en fait, c'est une œuvre de Tripiti. On en a parlé quand on a parlé de l'époque romantique. Et là, c'est le mausolée du duc Ferdinand-Philippe d'Orléans. On sait qu'un des fils de Louis-Philippe a été tué dans un attentat, hein, aux portes de Paris. C'est pour ça que si vous allez... C'est quoi, c'est la porte Maillot, je crois. Vous savez, là, oui, avant d'aller du côté de la Défense, hein, vous avez une petite chapelle qui est au milieu d'un rond-point. C'est ça. Et dans cette chapelle, il y a ça. Ça, c'est la chapelle Saint-Ferdinand. Elle a été construite à l'endroit même de l'attentat. Alors, c'est une chapelle tout à fait extraordinaire. Un calicant sculpté avec des vitraux, c'est extraordinaire. Et à l'intérieur, il y a ça. Une œuvre donc de Tricoty. Et Tricoty avait comme élève la sœur de Fernand-Philippe d'Orléans, qui est qui?
Marie d'Orléans,
la sculptrice, hein, dont on a parlé déjà. Hein. Et bien, Marie d'Orléans est la sœur de Philippe d'Orléans, et elle a travaillé avec son maître Trigouti à l'œuvre que vous voyez là. Ok ? Alors, ça, c'est une œuvre de Rude. Ah, Rude, c'est la Marseillaise, d'accord ? Il n'y a pas que. Hein. Voilà Cavaignac, hein, qui est, vous savez, un progressiste du 19e, qui était notamment journaliste, etc. Très très beau gisant, hein, qui reprend l'idée, disons, médiévaux, mais de manière moderne, pas Rude. On est en 47, hein, c'est très tôt, quand même. Ouais. Très très belle. Ça, c'est la tombe, je veux dire, la famille Dantan, une tombe normale, hein, où il y a Jean-Pierre Dantan, son frère, son père, sa mère, enfin bref, une tombe familiale au Père Lachaise, qui est évidemment un musée de sculpture extraordinaire. On ne le dira jamais assez. Une œuvre de Préau, vous avez bien vu, hein, tombeau de Philibert Rouvière, qui était un acteur. Ça, vous avez un masque là, un masque d'acteur. Hein, voilà, donc il fait penser au silence. Ça, C'est l'abbé Mirois qui s'est fait fusiller par les Prussiens pendant la guerre de 70. Il avait caché sous l'autel de l'église avec des gens du village des fusils. Les Prussiens ont découvert, il a été fusillé avec d'autres. D'où le fait que là, vous le voyez, après son supplice. Donc, très belle œuvre de Saint Marceau. Rappelez de la communiante.
Oui.
Ça, c'est Cariès, on l'a vu tout à l'heure. En fait, c'est l'autoportrait de Cariès. Et à sa mort, on a mis son autoportrait sur sa tombe. Voilà. Il tient une petite statuette d'un espèce de petit mousquetaire. Vous savez, Cariès s'intéressait beaucoup à des visions historicistes. Hein. Rappelez de l'infante. Hein. Là. Monseigneur Dupont-Loup, on l'a déjà vu, hein, avec la foi et le courage. Hein. Voilà, c'est copieux. Hein. Chapu. Ça, on a vu des œuvres de lui la fois dernière. Hein. C'est une œuvre dense. Hein. Guillaume, on en a parlé, une œuvre de Barias. Hein. On a vu la dernière fois Spartacus de Barias, vous vous rappelez, hein. Voilà, donc une œuvre du même Barias, la jeune fille Boussaada, qui fait donc référence à une œuvre de Guillaume, qui est un artiste orientaliste. Hein. Et puis enfin, cette œuvre célèbre de Dalou. Vous vous rappelez le réaliste Dalou, hein, les ouvriers, dont je vous ai montré, qui présente le journaliste Victor Noir, qui a été tué, en fait, par le cousin de Napoléon III. Hein. Alors, c'est une histoire très compliquée, l'histoire liée à des questions de duel, etc. En tout cas, un jour, Victor Noir va avec un autre personnage chez le cousin de Napoléon III, et il y a une dispute qui commence, et en fait, le cousin de Napoléon III va tirer un coup de pistolet, 6 coups sur Victor Noir, qui va être tué. Et donc, ça fait évidemment un palmarès politique terrible, enfin bref. D'où la tombe de Victor Noir, qui est devenue, si vous voulez, une sorte de martyr républicain. Hein, ouais. Voilà, hein, d'où le fait que Dalou, qui était devenu républicain, a fait ça. Et alors, vous avez raison, hein, c'est une œuvre qui est au Père-Lachaise et qui fait l'objet de... parce que c'est une œuvre très réaliste, dans tous les sens du terme, hein, y compris au niveau médian du corps du personnage. Hein, ce qui fait que c'est un lieu qui est, depuis des décennies, hein, l'objet de toutes sortes de fantasmes. Hein, donc, il y a des gens qui se couchent dessus, enfin, je vous passe les détails. D'où le fait que tous les détails de l'anatomie du personnage soient parfois un peu, patinés. Voilà. Donc ça ramène quelque chose à ces sculptures. Et ben voilà, voilà pour aujourd'hui. Et ben bravo, hein. Et alors la semaine prochaine, ce sera le coup de balai final. Et ben préparez-vous, hein. On aura l'occasion de regarder tout le siècle.